Jacques Matan de TMB pour le journal. Après la victoire de Joseph Kabila et l'annonce de l'opposition républicaine par Jean-Pierre Bemba, la MONUC appelle les deux candidats au respect des engagements respectifs signés et des garanties réciproques après le scrutin. L'actualité, c'est aussi cette position ferme du gouvernement congolais qui n'a pas à négocier avec Laurent Kunda. Considéré comme criminel, le ministre de l'Intérieur en séjour à Goma demande au chef rebelle de laisser partir les militaires sous son contrôle pour le processus de brassage. Mais les notabilités locales chargées d'apporter ces messages au chef rebelle n'ont pas pu accomplir leur mission. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, le manque d'eau potable tue plus que les conflits armés, constat fait par le PNUD dans son rapport mondial du développement humain de l'année 2006. Ce rapport souligne que la RDC regorge 25% de réserves mondiales d'eau douce. Seulement 48% de sa population a accès à l'eau potable. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous recevoir. Publication de résultats définitifs de l'élection présidentielle 2006 en RDC. La MONUC appelle les deux candidats à tenir leurs engagements d'après les élections. Déclaration faite par le porte-parole de la mission onusienne en RDC, Kemal Saïki, au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi. En outre, la MONUC félicite le peuple congolais pour avoir voté dans le calme et le président Joseph Kabila pour son élection à la tête du pays. Elle salue également l'intention du vice-président Jean-Pierre Bemba d'œuvrer dans l'opposition républicaine pour l'intérêt supérieur de la nation. Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC, au micro de Ribio Nzenza.
La MONUC salue l'annonce par la Cour suprême de justice de la RDC des résultats officiels des élections présidentielles. Elle félicite tout d'abord et surtout le peuple congolais pour cet événement historique. Elle félicite le président Joseph Kabila pour son élection à la fonction de président de la République démocratique du Congo. À cet égard, la MONUC tient à rappeler la déclaration d'intention post-électorale du 29 octobre des deux candidats et les appelle à respecter leur engagement. Aussi, la MONUC note avec satisfaction l'engagement solennel du vice-président Jean-Pierre Bemba d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation de manière ordonnée et pacifique et dans le cadre d'une opposition républicaine, c'est-à-dire qui s'inscrit dans les lois et institutions de la République.
La suite du processus électoral au centre du point de presse du bureau de la commission électorale indépendante tenue ce mercredi à Kinshasa. Au cours de cette séance, le premier rapporteur de la CEI a présenté la suite des opérations électorales, notamment les sénatoriales et l'élection des gouverneurs de province. Le condensé, René Capita.
Le premier rapporteur de la CEI a déclaré que plus de 450 dossiers ont déjà été enregistrés par la CEI pour les élections des sénateurs. Rappelant que les opérations d'enregistrement des sénateurs prennent fin demain à 16h, Dieudonné Mirimo a souligné qu'il n'y aura plus de délai de prolongation pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur candidature. Pour ce qui est des résultats des provinciaux, Dieudonné Mirimo a dit qu'ils pourront être publiés ce week-end. Toujours en rapport avec les provinciaux, le rapporteur de la CEI a annoncé qu'ils procéderont très prochainement à la désignation des chefs coutumiers qui représenteront chaque territoire dans les assemblées provinciales. Cette désignation se fera par vote ou par consensus. Enfin, pour ce qui est de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, Dieudonné Mirimo a rappelé que l'enregistrement des candidatures a déjà débuté au niveau des bureaux relais des traitements des candidatures. Il prendra fin le 8 décembre prochain. Pour les candidats indépendants, a-t-il ajouté, ils devront s'inscrire sur une même liste et paieront une caution unique.
Il n'y aura pas de négociation avec le général déchu, Laurent Kunda, qui combat depuis 4 jours les soldats des FRDC dans les environs de la localité de Sake, à 27 km de Goma. Déclaration de Denis Kalumé, ministre de l'Intérieur, qui séjourne à Goma depuis lundi dernier au Nord Kivu. Le ministre Kalumé ajoute que les troupes fidèles à Laurent Kunda ne seront plus payées par le gouvernement congolais comme par le passé, avant qu'elles ne se rendent au centre de brassage. Une équipe du Baraza Lawazé du Nord Kivu est chargée de rencontrer Laurent Kunda ce mercredi et lui transmettre ses messages. Baraza Lawazé est une structure qui regroupe les 9 communautés autochtones de cette province. Le général Denis Kalumé est au micro de Gisèle Cage.
Laurent Kunda est considéré comme criminel tant international que national. Le gouvernement ne doit pas négocier avec Laurent Kunda. Le gouvernement vient avec un ultimatum. On lui demande 1) de cesser les hostilités, 2) de replier ses hommes, 3 de les mettre à la disposition du gouvernement pour les brassages. Voilà le message que nous demandons aux membres du bassin intercommunautaire de lui amener.
La 81e et la 83e brigade qui s'affrontent avec d'autres troupes intégrées, nous savons que ces brigades sont toujours payées par le gouvernement. Est-ce que cela va continuer?
Ça ne doit pas continuer parce que certaines communautés croient qu'en ayant une brigade monolithique, ça donne des garanties de leur protection. Mais nous leur disons que c'est une erreur. La meilleure protection, c'est l'État qui doit donner pour l'ensemble des communautés. Et pour cela, il faut envoyer ces jeunes dans les centres de brassage. Ils vont construire une armée forte républicaine nationale qui pourra défendre tout le monde sur le même pied d'égalité.
Et puis les membres du Baraz Alawazé du Nord Kivu, chargés de rencontrer Laurent Kunda, ont été empêchés de rencontrer le général déchu dans son fief ce mercredi par certains habitants de Sake et certains soldats FRDC en place dans cette localité. Le membre de cette structure était porteur d'un message du ministre de l'Intérieur Denis Kaloumé pour conscientiser Kunda au sujet des affrontements qui opposent les militaires qui lui sont fidèles à ceux de la 14e brigade intégrée. Les véhicules qui transportaient la délégation du Baraza ont été empêché de traverser la cité, a déclaré Alphonse Koubouya, président du Baraz Alawazé. Selon le même responsable, la population de Sake et les FRDC accueillent très mal l'idée de rencontrer Kunda pour des pourparlers. Parlons de l'insécurité grandissante dans la province du Katanga à Kolwezi. Des inconnus non autrement identifiés sèment la terreur et agressent des paisibles citoyens la nuit. On note déjà 4 victimes et en 5 jours, 3 personnes tuées et un agent d'une maison de gardiennage blessé. Ces derniers n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention de la police. Les autorités civiles et la police affirment que des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces crimes. Donat Chimbouge.
La première victime a été enregistrée le vendredi dernier. Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans. D'après sa famille, il serait parti chercher de la cigarette dans le quartier, mais il n'est jamais revenu. Son corps a été découvert le lendemain portant des blessures à la tête. Un jour après, c'est le corps d'une jeune fille qui a été retrouvée dans un lac de la cité. Le lundi, un agent d'une maison de gardiennage a été agressé à son poste par 3 inconnus armés et en tenue civile. La population puis la police sont intervenus pour les sauver. Le dernier cas a été enregistré hier mardi. Il s'agit d'une femme retrouvée morte dans sa maison à la commune Manika. Toutes les sources contactées s'accordent sur le nombre des victimes, mais pas sur les circonstances et l'identité des agresseurs. Pour la société civile, il s'agit tout simplement des assassinats. Quoi qu'il en soit, cette situation crée une véritable psychose dans la ville de Kolwezi. La police criminelle et le maire de Kolwezi annoncent que des enquêtes se poursuivent pour savoir s'il s'agit des cas isolés ou des actes d'un groupe de criminels. Lubumbashi, Donat Chimbouche, Radio Okapi.
Insécurité vécue aussi au nord-ouest de Butembo, province du Nord Kivu. Les maïmaïs du commandant Baraka, réfractaires au processus DDR, entretiennent l'insécurité dans cette contrée. Ils violent les femmes, pillent les fermes et les animaux de la basse-cour, empêchant ainsi le développement de l'élevage dans cette partie du groupement de Malio à Butembo, Étienne Mouindo.
Les pillages des fermes et des animaux domestiques se multiplient à Kiavisoho et Mbilinga, des localités situées à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Butembo. Dans un rapport adressé ce mardi au chef de groupement Malio, la population de Kiavisoho et Mbilinga se plaint d'être rationnée continuellement par les maïmaïs du commandant Baraka. Toujours selon ce même rapport, les maïmaïs du commandant Baraka non seulement freinent le développement de l'élevage, mais aussi violent les femmes et n'hésitent pas à prendre certaines d'entre elles en otage. Dans l'ONG Mission d'aide aux déplacés qui s'occupe du ressassement des déplacés dans le secteur de Lubero-Butembo, une centaine de familles ont fui le secteur de Kiavisoho et Mbilinga pour échapper aux exactions des maïmaïs du commandant Baraka. Les déplacés vivent dans des familles d'accueil à Butuhe et à Burundo, à une dizaine de kilomètres au nord de Butembo. De Butembo, Etienne Mwindo, Radio Okapi.
18h09 à Kinshasa, depuis le studio Jérôme Gongo. Si vous ne le savez pas, le manque d'eau potable tue plus que les conflits armés. C'est le constat fait par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, dans son rapport mondial du développement humain de l'année 2006. Rapport que le représentant résident du PNUD a présenté ce mercredi à Kinshasa et qui s'articule sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement du milieu. Ce rapport souligne aussi que la RDC regorge 25% de réserves mondiales d'eau douce, mais seulement 48% de sa population a accès à l'eau potable. Ross Mountain, représentant résident du PNUD en RDC, explique au micro de René Capitapelizo.
Nous avons également parlé ici aujourd'hui de la situation au Congo, où c'est un pays riche en eau douce, mais c'est très peu qui est disponible à la population. On a abordé également les plans des bailleurs de répondre à la plan qui était endossé par le gouvernement, le programme contre la pauvreté dans ce pays, qui identifie bien sûr l'eau potable une des défis majeurs, de voir comment on peut traiter cette grande priorité pour que la population puisse bénéficier de cette amélioration qui malheureusement prend des milliers de vies chaque année dans ce pays, qui peut l'améliorer dans le plus court délai avec une intervention assez importante.
Direction province du Kasaï occidental pour parler santé, découverte d'un nouveau cas de poliomyélite à Kakulu, localité à 260 km de Kananga, dans la zone de santé de Luebo. L'information a été livrée à la presse par le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le médecin inspecteur provincial du Kasaï occidental, cette nouvelle découverte confirme encore la circulation du poliovirus sauvage dans cette province, d'où l'organisation le mois prochain d'une campagne de vaccination dénommée campagne de riposte dans les 44 zones de santé de cette province du Kasaï occidental. Docteur Jean-Constantin Kanoa estime qu'il est nécessaire que les notables et chefs de village soient impliqués dans la sensibilisation de la population. Il est dit au micro de Pierrot Elamengi.
Dernièrement, un nouveau cas a été identifié dans la zone de santé de Luebo. C'est ainsi que nous continuons à organiser des activités de vaccination supplémentaires pour renforcer l'état d'immunité et procéder à l'éradication effective de la poliomyélite. Nous avons investigué, nous avons fait le rapport à Kinshasa, c'est-à-dire qu'au niveau national, ils ont préféré que nous puissions continuer à faire les activités de vaccination supplémentaires sous forme de riposte. Cette riposte va avoir lieu pour la première phase du 12 au 14 sur toute l'étendue de la province, avec une partie du Kasaï oriental et toute la province de l'Équateur. Il faut que les parents soient disponibles pour que leurs enfants soient vaccinés. La vaccination est gratuite. Elle se fait pendant 3 jours avec des sens de récupération de 1 ou 2 jours. Maintenant, nous avons préféré que les mobilisateurs soient des notables du village, les chefs de groupement.
Rapatriement des réfugiés. 60 000 réfugiés congolais vivant en Zambie vont regagner le pays incessamment. Un accord tripartite a été signé hier mardi entre la Zambie, la RDC et le HCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés à ce sujet. Selon Jens Esman, chargé des relations publiques au HCR, cet accord tripartite constitue un grand pas vers la rupture des mouvements des réfugiés congolais vers la Zambie. Jens Esman au micro de Karine Kakasi.
Il y a déjà 35 000 réfugiés dans les camps Kala et Mwangé qui ont déjà exprimé leur souhait de rentrer pas loin d'ici, peut-être déjà en 2016. Il n'y a pas encore une date qui est mise en place pour le commencement des opérations. On va vous communiquer les dates qui sont connues. J'estime que ça ne va pas être très loin d'ici, peut-être vers la fin d'année ou début 2016. Les défis de réintégration sont énormes. Il y a beaucoup, beaucoup de défis qui sont liés aussi plus aux questions de développement que juste à l'humanitaire. La HCR va fournir la côté humanitaire. La HCR ne va pas pouvoir résoudre les problèmes structurels. Ce sont vraiment des questions de développement et on espère fortement qu'il y a des acteurs de développement qui vont s'engager.
Protection de la faune. La chasse est suspendue depuis le 16 de ce mois jusqu'au 14 mai 2007 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Décision de Yves Mobando-Yogo, gouverneur de cette province. Objectif, permettre aux animaux sauvages de se reproduire. C'est pour la deuxième fois au cours de la même année qu'une telle mesure est prise. Cette décision n'est pas bien accueillie auprès des femmes vendeuses de la viande du gibier. Ghislaine Nentobo.
La décision de suspension de la chasse à l'Équateur couvrait la période du 15 mai au 15 août 2006 et la chasse a été rouverte pour la période des 16 août au 15 novembre. Chaque année, la chasse doit être suspendue 2 fois à l'Équateur pour permettre à certaines espèces d'animaux protégés comme les chimpanzés, les bonobos, les crocodiles, les éléphants, les hippopotames de se reproduire. Des espèces menacées de disparition suite au braconnage pratiqué dans les réserves et au parc de la Salonga. Les braconniers attrapent parfois des jeunes animaux pendant la tétée après avoir abattu les parents. Pour les services de l'environnement et conservation de la nature, protéger ces espèces en voie de disparition s'avère indispensable. Pascal Biseka, coordinateur provincial de l'environnement et conservation de la nature.
C'est une période qui a été déterminée par les scientifiques pour que les animaux puissent se reproduire et se reposer aussi. Il ne faut pas que chaque fois qu'ils entendent le coup de feu dans la forêt, et ça ait un impact sur la reproduction même des animaux. L'avantage, c'est qu'au lieu d'aller plus loin dans la chasse, avec le temps, les animaux seront nombreux et ils seront maintenant plus près des villages, des agglomérations.
Mais la mesure des suspensions de la chasse n'enchante pas les mamans vendeuses de la viande boucanée ou fraîche qui s'approvisionnent auprès des chasseurs. La plupart estiment que pendant tout ce temps, elles qui sont habituées à ces commerces vont perdre leur clientèle et ne sauront comment faire face aux différentes dépenses de leurs foyers respectifs. Cependant, la suspension de la chasse était observée régulièrement pendant la colonisation, une habitude que la population, tout comme les autorités, ont perdue au fil des ans. Justine Ntobo, Bandaka, Radio Okapi.
Il est 18h15 à Kinshasa. C'est la fin de ce journal mis en onde par Mimi Kindou, coordonné rédactionnellement par Claude Boussé-Missambo. Retrouvez-le sur le site www.radiookapi.net. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi.